Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Christophe Paco, bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Soir. À la une de l'actualité de ce mercredi, prévenir avant de guérir face à la montée en puissance de la quatrième vague de la pandémie de Covid et ses dérives, concernant notamment le variant Delta. Après la Corse hier, le plan blanc a été déclenché ce midi sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ce journal, nous irons à Marseille où les hospitalisations ont augmenté de plus de 55%. Le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux universitaires de Marseille, sera notre invité dans un quart d'heure. Et puis nous nous rendrons sur l'île de Beauté tout à l'heure, où de nouvelles mesures de restriction ont été annoncées ce matin par le préfet. Ça touche pas mal les jeunes. En clair, il sera difficile de faire la fête sur toute l'île après 1h du matin. Dans la douleur et la colère, les Libanais se sont réunis aux abords du port de Beyrouth aujourd'hui pour marquer le premier anniversaire de l'explosion dévastatrice et meurtrière du 4 août dernier et dénoncer également l'impunité de la classe politique dans cette tragédie. Nous retrouverons sur place notre envoyé spécial Alice Moreno dans un instant. Les larmes et la rage de Kevin Mayer au premier jour de ses 10 épreuves du décathlon olympique. Handicapé par une blessure au dos, le recordman du monde rêve pourtant toujours de médailles. Nouvelle blessure dans le clan français, on appellera 25 du sport pour savoir si c'est simplement une fatalité ou la faute a pas de chance. Du bronze, en 4,70 en tout cas pour la voile tricolore, ça c'est bien, ça fait 25 médailles. Et puis nos basketteuses, comme nos basketteuses et comme nos handballeuses, eh bien c'est beau ce qu'elles font. Comme les garçons, elles sont qualifiées pour les demi-finales. 18h30, juste après votre plateau télé signé Laurent Marsic, on refera les jeux justement avec Marie Portolano et Christian Olivier. La météo de ce mercredi, des jours à venir, des heures même à venir. Claire Delorme, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir
ça,
à tous.
Ça s'améliore dans le sud parce qu'il n'y a plus de pluie, ça y est, ça va, encore
oui,
un tout petit peu.
Encore un petit peu, essentiellement vers le sud-est, mais en tout cas pour demain matin, c'est une histoire oubliée. Le soleil va revenir, que ce soit du littoral aquitain vers la région Paquet en passant par les Pyrénées et les plaines du Languedoc. Par contre, autant vous avertir, il va souffler très fort entre Corse et continent jusqu'à 110 km/h, donc je vous invite à la prudence. Partout ailleurs, les nuages vont forcément être encore de la partie avec en prime une nouvelle perturbation qui va gagner la Bretagne en matinée. Puis ensuite les pays de la Loire, les régions centrales en remontant vers le nord, mais ça sera des plus faibles. Partout ailleurs, ça reste encore aussi très nuageux avec en prime de bonnes averses attendues vers les frontières de l'Est. Côté température, on est encore très en dessous pour un mois d'août, pas plus de 15 degrés en général le matin. Et dans l'après-midi, ça ne décolle pas, entre 20 et 24 degrés pour une très bonne moitié nord et de 24 à 29 degrés du sud-ouest en direction de la Méditerranée.
Merci mille fois, Claire Delorme. On vous retrouve pour une météo encore plus complète tout à
oui,
l'heure,
absolument.
Juste après 18h30.
À
plus que jamais, merci. Vous êtes bien sur RTL.
RTL. Soir.
Et tout d'abord, place au héros du jour. Ils sont policiers, hommes et femmes, et appartiennent à la BAC de la ville de Sète. Alertés par des habitants d'un immeuble du centre de la cité, 8 policiers hier se sont rendus au plus vite pour essayer de ramener à la raison une femme qui avait mis le feu à la résidence et menaçait tout simplement de tout faire sauter. Parmi ces 8 gardiens de la paix, Francis Navarro raconte la suite de cette opération de sauvetage à haut risque.
Arrivé sur place, on constate que des gens sont au balcon, ils nous demandent de venir les chercher. Et là, on constate au sol qu'il y a un liquide assez épais. Et là, une personne nous informe qu'une femme désorientée a jeté au sol des produits hautement inflammables. Et on constate qu'au premier étage, il y a un sac poubelle qui est en feu. Donc on commence à éteindre le feu et là on entend des cris, des pleurs au niveau des appartements. La plupart des fonctionnaires progressent dans les étages en frappant porte à porte. Il y a une fumée tellement épaisse qu'on ne peut absolument rien voir, c'est affreux. Et les collègues, au fur et à mesure, extraient à peu près une quinzaine de personnes, dont un enfant de 20 mois et 2 jeunes enfants de 11 et 12 ans. Dès que les gens ont été mis en sécurité, on a cassé la porte. La personne déséquilibrée avait ouvert la bouteille de gaz et allumé les 4 brûleurs. On coupe le feu, on interpelle la personne. Et à la sortie de l'immeuble, la plupart des fonctionnaires qui sont intervenus dans l'immeuble ont été atteints d'intoxication. On a tous été évacués à l'hôpital de Sète pour être soignés. Après coup, oui, on a pris conscience que la mission était dangereuse. Mais sur le coup, il fallait extraire impérativement ces gens qui n'avaient rien demandé. Et c'est une mission qui s'est bien déroulée. Je pense qu'on a eu de la chance.
Francis Navarro, au propos recueilli par Thomas Proutot, le chef du service. service police-justice d'RTL. 18h04, c'est au tour de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'activer depuis ce matin son plan blanc qui redéfinit, on le sait, le planning et les priorités des opérations et qui permet de rappeler l'ensemble de son personnel pour faire face à une vague d'affluence de patients et augmenter ainsi, bien sûr, le nombre de lits en réanimation et en hospitalisation. À Marseille, hier soir, on comptait 102 cas dans les hôpitaux, dont 31 en réanimation, au moment où le personnel hospitalier a décidé en plus de se mettre en grève pour dénoncer la vaccination obligatoire. Et plusieurs casernes de pompiers sont même associées à ce mouvement. Pour aller plus loin avec nous ce soir, dans moins de 10 minutes maintenant, le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux universitaires de la cité phocéenne, sera avec nous pour en parler. Et puis en Corse, après l'activation du plan blanc hier, cet après-midi, de nouvelles mesures de restrictions liées à la propagation du virus ont été prises. Hôtels, cafés, restaurants doivent notamment fermer leurs portes à 1h pile, 1h du matin. On oublie donc les kermesses, les parties de pétanque juste après et autres fêtes sur la plage pour des groupes de plus de 10 personnes. Masque obligatoire de surcroît à l'extérieur. Mesure qui touche, on l'imagine, Laetitia Gianeschini, une population plutôt jeune et festive.
Clairement, ce sont les jeunes qui sont concernés par la fermeture des bars à 1h du matin. Ils sont, pour le préfet de Corse, Pascal Lelarge, le principal vecteur de l'épidémie.
Pour faire court, 12-30 ans, c'est 1500-2000 le taux d'incidence. C'est absolument énorme, colossal. Puis les autres, c'est 150-200. Et donc, évidemment, ce qu'on veut, c'est éviter de mettre trop en contact, sans protection sanitaire, ces deux tranches d'âge, notamment sur des événements avec beaucoup de monde.
Alors, qu'en pensent les premiers concernés ?
Pour moi, ça ne va rien changer. Ce n'est pas parce que les bars ils vont fermer 1h plus tôt que les jeunes ils vont quand même sortir. Ils vont sans doute même faire des afters. Il y en a qui louent des maisons. Donc pour moi, ça ne change rien.
On ferme à 1h ou à 3h, ça ne change pas grand-chose. Donc, je trouve que c'est une privation de liberté pour rien. Parce qu'à partir du moment où on oblige le pass pour rentrer dans un établissement, je ne vois pas pourquoi le fait de le fermer à 1h ou à 3h, à partir du moment où les gens dans l'établissement sont vaccinés, ça change quelque chose. Après, c'est des mesures qui ne sont jamais très, très logiques.
Logique ou pas, elles entreront bien en vigueur sur l'île dès demain.
Merci à vous, Laetitia Gianeschini pour RTL. Et puis un gouvernement qui n'est pas insensible aux efforts répétés du personnel soignant depuis le début de la pandémie. Pierre Herbulot, bonsoir à vous.
Bonsoir.
C'est vrai qu'on va les aider au plus près, en tout cas ces soignants, ce secteur hospitalier en tout cas qu'on a besoin.
Oui, absolument. Tous les jours de repos ou les congés payés non pris seront indemnisés de manière exceptionnelle, fait savoir le ministère de la Santé, pour ce qui est des heures sup pour le personnel soignant et du temps additionnel, les gardes pour les praticiens hospitaliers. Là, la majoration est de 50%. Un message de soutien envoyé à ceux qui sont en première ligne en pleine quatrième vague, explique Quentin Hénaff, responsable adjoint du pôle RH à la Fédération hospitalière de France.
On leur dit dès maintenant, si des efforts vous sont demandés pour gérer une nouvelle fois une épidémie à un pic lié au Covid-19, vous aurez le soutien du maximum de la communauté nationale et notamment financièrement, vous serez accompagné pour pouvoir donner cet effort supplémentaire qui vous sera demandé.
Ces mesures, elles ne sont pas nouvelles, elles étaient déjà en place l'an dernier au plus fort de la crise. Ce n'est qu'une réactivation de ce qui a déjà été fait et ça frustre Nolwenn, infirmière aux hôpitaux de Paris, qui repart au charbon cette nuit.
C'est du réchauffé, c'est quelque chose qu'on a déjà eu avant. Donc d'un certain côté, on va dire c'est gentil de penser à les réactiver. Un petit peu d'argent de plus, ça fait pas de mal, on va dire. Mais à côté de ça, ça nous aide pas à nous reposer plus. Ça va pas améliorer notre santé parce que, mine de rien, on s'épuise à travailler comme ça.
Et puis précision, tout de même, ce dispositif de soutien ne concerne que le personnel soignant qui travaille sur le Covid et dans les zones en tension.
Pierre Herbulot, merci à vous. C'est un entretien à retrouver demain chez nos confrères de Paris Match, interview accordée par Emmanuel Macron, alors un déplacement en Polynésie la semaine dernière. Le président de la République fustige à nouveau le comportement des anti-vaccins au moment où le Conseil constitutionnel doit valider, on le sait demain, l'application du pass sanitaire généralisé. Jacques Serret, bonsoir. C'est un président visiblement remonté face aux dernières contestations et aux critiques aussi des opposants à ce projet d'envergure nationale.
Oui, le chef de l'État juge sévèrement tous ceux qui crient à la dictature. Pour Emmanuel Macron, ce sont quelques dizaines de milliers de citoyens, je cite, « en perte de sens ». « Je ne céderai en rien à leur violence radicale », insiste le président, visiblement très remonté. « Leur attitude est une menace pour la démocratie. Ils confondent tout », peste Emmanuel Macron, qui poursuit « Je les invite à regarder les mêmes manifestations dans des pays qui ne sont plus des états de droit ». Le chef de l'État égratigne au passage certains de ses adversaires politiques, sans les nommer, fustigeant la complaisance des extrêmes avec ses mouvements et parfois de certains dans les formations politiques républicaines. C'est grave, regrette le président, car les mots ont un sens. Le locataire de l'Élysée, qui affiche donc cette fois un ton bien différent que celui qu'il emprunte dans ses vidéos depuis lundi sur les réseaux sociaux, entre calme et pédagogie sur Instagram et TikTok et phrases choc dans Match, Emmanuel Macron semble poursuivre une fois de plus la stratégie du en même temps.
Jacques Serret, service politique d'RTL. Réaction sans plus tarder de Nicolas Dupont-Aignan, président du mouvement Debout la France et fervent opposant au pass sanitaire.
Emmanuel Macron ne supporte plus la contradiction. Ce sont des paroles provocatrices et il y a quelque chose qui se passe dans le pays. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on doit le reconnaître. Mais au lieu de comprendre, de voir comment rassembler les Français pour vaincre cette épidémie, je vois que le président de la République est toujours dans l'outrance, la provocation. Quand on est contre lui et qu'on n'est pas d'accord avec une de ses décisions, on est contre la démocratie, il n'y a plus de discussion possible. Et les phrases qu'a employées le président de la République sont extrêmement violentes à l'égard des millions de Français qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Voilà,
voilà Nicolas Dupont-Aignan, propos recueillis par Benjamin Boucriche. À Toulouse, en ce moment même, une manifestation qui vient tout juste de débuter pour dénoncer l'obligation vaccinale, justement. Nous rendrons à Toulouse, dans la Cité Rose, tout à l'heure, dans le journal de 19h. Et puis je vous rappelle que notre invité, dans moins de 10 minutes maintenant, sera le professeur Juve, le grand patron, en tout cas, des hôpitaux de Marseille, sera avec nous dans un instant sur RTL.
RTL à Tokyo.
Grand soleil, 18h10 sur Tokyo et sur les sports collectifs français. Si on met de côté le foot olympique, pas vraiment à la hauteur pour les garçons et puis des filles qui n'étaient même pas qualifiées pour la compétition. En revanche, côté volley, hand, des baskets messieurs, on vous le rappelle hier, ça s'est véritablement très bien passé puisque les trois grands sports co se sont qualifiés pour la demi-finale olympique. Bravo mesdemoiselles, tout pareil, belle énergie chez les demoiselles du hand et du basket. Pour les handballeuses, ça n'a pas traîné, 32-22 face aux Pays-Bas, chapeau. Et puis qualification également pour les demi, pour les basketteuses qui ont, elles, livré un combat héroïque face à l'Espagne. Nicolas Burnand, bonsoir à vous Nicolas, 67-64, et donc une place à nouveau en demi à ce grand niveau. Chapeau, même si rien n'a été simple dès le départ Nicolas.
Oui, le début de match a été un peu endormi, mais les tricolores ont vite pris les commandes, solides en défense malgré quelques erreurs au rebond. Les Bleus, emmenés par Gabby Williams, magistral avec ses tirs de loin, toujours devant au score, mais les Espagnols ont pris le dessus à l'approche du money time. Fin de match très chaude, à suspense. Cela faisait 6 ans que la France n'avait pas battu l'Espagne. Andy Millem est soulagée du résultat. Elle est au micro de nos confrères de France Télévisions.
Ça a été super dur. On allait le chercher, voilà, comme je disais, avec... avec ce qu'on a là, mais de toute façon, voilà, des quarts de finale, c'est toujours très accroché et voilà, on a tenu. Voilà, on nous a toujours dit que contre l'Espagne, quand ça comptait, on n'était pas capable de gagner. Et là, je pense qu'on avait vraiment, vraiment à cœur de montrer que non, ça allait être autrement.
Les Françaises retrouveront l'étonnante mais solide équipe du Japon en demi-finale. Les Bleus s'étaient inclinés lors de leur dernier match de préparation avant de rebondir dans ce tournoi.
Oh, mais il y a une belle euphorie, hein, en tout cas, côté tricolore dans les sports collectifs. Merci à vous, Nicolas Burnand. 25e médaille des Jeux, c'était ce matin très tôt pour la délégation tricolore avec du bronze, cette fois à la voile, en 4,70 avec le duo Aloïse Retornaz et Camille Lecointre qui seront les invités tout à l'heure de On refait les Jeux avec évidemment Marie Portolano et Christian Olivier ce soir. L'épreuve du marteau, messieurs, petite déception pour le français qui ne termine que 5e, c'est Quentin Bigot. Et puis ça grince, ça coince pour Kevin Mayer, notre dieu du stade. Et Isabelle Langer va faire le point avec vous à mi-parcours dans cette épreuve si exigeante, on le sait, du décathlon. C'est quand même une journée assez compliqué pour notre recordman de la spécialité, Isabelle.
Ah oui, quelle journée Christophe pour Kevin Mayer. Il y a d'abord eu les larmes de la frustration le matin pour le détenteur du record du monde, bloqué du dos depuis son arrivée au Japon. Il n'a pu s'exprimer à 100%, notamment au lancer du poids, où il est à plus de 2 mètres de son record. Quatrième après 3 épreuves, le Français a profité des quelques heures de repos pour prendre le taureau par les cornes, comme il l'a expliqué au micro de France Télévisions.
Bon, je vous avoue que je ne prends jamais d'anti-inflammatoire, là j'en ai pris donc je ne sens plus rien. Donc ça me permet de faire ce que je veux. Je vous avoue que je suis vraiment pas anti-inf,
Mais bon, ça fait 5 ans que je n'en avais pas pris, donc il faut utiliser le joker.
Cela lui a permis de réussir un concours à la hauteur exceptionnelle avec un saut à 2,08 m à 1 cm de son record personnel. La contrepartie, c'est qu'il y a laissé des plumes, n'a pas assez récupéré et est parti ensuite sur un faux rythme lors du 400 mètres qu'il aborde. Un temps médiocre, loin de ses standards. Cinquième au classement, Kevin Mayer compte sur la dernière journée où il a ses points forts, notamment la perche, pour revenir dans la course à la médaille. Si l'or semble intouchable, le podium, lui, est accessible.
Merci à vous, Isabelle Langer.
RTL Soir, Christophe Pacaud.
Les larmes de Kevin Mayer, un géant meurtri donc à l'image hier du perchiste Renaud Lavillenie, ou encore du gymnaste et porte-drapeau français Samiraït Saïd, ou bien sûr du géant Teddy Riner qui nous avait caché une petite blessure au genou pendant des semaines. Ça fait quand même beaucoup dans ces Jeux Olympiques. Avec nous ce soir, Frédéric Depiès, qui est médecin de la Ligue d'athlétisme d'Île-de-France et ancien grand président de la commission médicale de la Fédération d'athlètes. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
C'est quoi, c'est la faute à pas de chance, toutes ces blessures à répétition ?
En fait, c'est le haut niveau, tout simplement. Lorsqu'on regarde les statistiques que l'on fait depuis maintenant plus d'une dizaine d'années en athlétisme international, on est à peu près dans les chiffres, hein, que ce soit chez les collègues étrangers ou chez les athlètes français. On est dans les chiffres classiques. Le très haut niveau, c'est être sur la corde raide. Et bien évidemment, soit le physique, soit le psychologique. D'ailleurs, on l'a vu avec Simone Biles, l'américaine, où effectivement, on voit que ça tient à pas grand-chose, la performance de très haut niveau. Là, on fait le cas. Nos athlètes sont bien préparés, ils sont bien entourés, mais la blessure, elle est toujours là, juste présente, entre le muscle au top de son niveau de performance et le muscle fragile qui est juste en dessous, quoi.
C'est inhérent à la pression de l'événement également, comme Tokyo, qu'on prépare depuis 5 ans. Plus, hein.
Bien sûr, je pense que là, on est dans une situation très particulière. Tokyo, certains l'attendaient depuis longtemps, d'autres le découvrent avec un coup de chance parce qu'ils se sont qualifiés finalement grâce au report. Mais dans tous les cas, de toute façon, c'est un événement hors norme. C'est les Jeux Olympiques. Et que ce soit en athlétisme ou dans d'autres sports, c'est souvent le Graal.
On voit la pression sur ces athlètes quand même qui est mise aussi par l'entourage, par les coachs. Hein, souvent, on leur crie dessus, il y a une grosse préparation. En gros, est-ce qu'on tire trop sur la corde ?
À partir du moment où c'est accepté, c'est-à-dire à partir du moment où c'est le projet de vie de l'athlète, on peut pas dire ça. On peut dire ça lorsque l'on le voit, lorsque ce sont des projets de vie qui sont pas totalement personnels pour l'athlète. Mais dans le cas où le choix est fait d'être le meilleur dans sa spécialité, là, il y a plus de questions à se poser. Il faut donner le meilleur de soi. Et il faut s'entourer, évidemment, scientifiquement. Il faut des entraîneurs, des techniciens, des médicaux qui vont vous aider à aller le plus loin possible, bien sûr.
Ouais, on n'a pas le sentiment qu'ailleurs, ça craque pareil ou que ça coince. Vous voyez, dans les autres pays, c'est un peu plus compliqué. Vous avez dit physique, c'est aussi psychique, bien sûr.
Bien sûr, psychique, ça c'est une certitude. Hein, la blessure, elle peut être induite par des troubles psychiques et puis elle va en induire ensuite. C'est-à-dire que ça va être difficile de revenir derrière une blessure. Et lorsqu'en plus cette blessure arrive quelques mois avant les Jeux pour certains, il faut modifier sa préparation, il faut s'adapter. Alors l'adaptabilité, c'est la force et l'intelligence de nos athlètes de haut niveau. Après, il y a la malchance. On voit la capacité qu'a un Renaud Lavillenie à se remotiver sur une entorse de cheville. Et derrière, malheureusement, c'est une talonnade sur une réception de saut à l'échauffement. Là, c'est la malchance.
Et Kevin Mayer, c'est quoi alors aujourd'hui ? C'est trop de pression au départ, ce dos qui coince. Et demain, ça ira mieux peut-être ? Qui sait ?
Là aussi, c'est le fait que le corps est amené à son meilleur. Il le dit lui-même. Il dit je suis fort, je suis très fort. Malheureusement, je ne peux pas l'exprimer parce qu'il y a un petit grain de sable. En fait, c'est un peu des Formule 1, nos athlètes de haut niveau.
C'est ça.
Et vous savez, comme moi, tout est monitoré en Formule 1. Là, malheureusement, sur un être humain, on ne peut pas tout monitorer. On en monitore déjà beaucoup de choses aujourd'hui, hein, entre les IRM, les capteurs de glycémie, mais on ne va pas tout monitorer. Donc, il suffit d'un petit grain de sable dans la mécanique. Et malheureusement, parfois, ça gêne. Parfois, il suffit de changer juste un appui au sol pour pouvoir avoir un petit peu moins mal. Donc, ils sont capables de faire ça. Les équipes médicales les aident à faire des strappings un peu particuliers qui vont les aider à moins souffrir sur la cheville. Donc il y a tout un entourage technique aussi qui va essayer de modifier le geste tant que c'est possible, mais modifier un geste parfois, c'est quelques centimètres de moins finalement au résultat.
Ou de plus, j'allais dire, avec de nouvelles chaussures par exemple, ça c'est un autre débat.
Alors ça c'est un autre débat, mais un débat d'ailleurs qui peut amener des blessures, parce que ces nouvelles chaussures, elles ont une forme et des matériaux qui derrière peuvent provoquer, et je pense qu'on le verra probablement dans les années à venir, peuvent provoquer des blessures. En tout cas là, pour l'instant, elles sont au top de leurs résultats, c'est sûr.
Merci mille fois pour toutes ces explications très claires. Frédéric Depiès, médecin de la Ligue d'athlétisme d'Île-de-France aujourd'hui et ancien président de la commission médicale de la Fédération française d'athlétisme. Bonne soirée à vous.
Et bonne fin de JO à tous.
RTL Soir. Christophe Paco.
18h18, un gigantesque champignon de fumée qui s'élève au-dessus du port de Beyrouth, une énorme déflagration qui terrorise, hante encore les nuits des résidents de ce quartier de la capitale libanaise. Bilan, 214 morts, 6500 blessés. Un an après, jour pour jour, on va retrouver sur place sans plus tarder sur le port de Beyrouth défiguré Alice Moreno, où la tristesse et la colère, Alice, étaient fortement présentes cet après-midi lors de cette grande journée de commémoration.
Oui, la messe hommage aux victimes se déroule toujours au pied des silos dans le port et en surplomb du port. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues. La foule est réunie au pied des immeubles vides, ces grandes tours, ces silhouettes fantomatiques soufflées par l'explosion l'an dernier. Des banderoles y ont été accrochées. 4 millions de Libanais assassinés, blessés, volés, peut-on lire sur l'une d'elles. Face à la foule, le père d'une fillette tuée dans l'explosion hurle son besoin de réponse, le besoin de réponse des Libanais. On ne peut pas faire notre deuil tant qu'on n'a pas de justice, hurle-t-il. Ce n'est pas une commémoration, c'est la révolution, reprend une femme à côté de lui. Que le gouvernement s'en aille, qu'ils s'en aillent tous pour que nos morts reposent en paix. Ici, les voix se brisent, tremblent, les drapeaux libanais sont teintés de taches rouge sang. À 18h07, pile, heure de l'explosion, une minute de silence en mémoire des 214 morts et 6500 blessés physiques a été observée. 18h07 à l'heure libanaise. Et désormais, des groupes de manifestants se dirigent vers le Parlement pour réclamer cette justice qui leur manque tant.
Alice Moreno sur place pour RTL, évidemment, à Beyrouth, dans la capitale libanaise. Ce matin, le pape François demandait des gestes concrets pour le Liban. À l'instant même, on vient de l'apprendre, la Commission internationale a décidé de débloquer une aide pour le Liban de 370 millions de dollars.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
La bonne nouvelle, c'est pour les salles de cinéma.
OSS 117, pour vous servir.
Les suites des aventures d'OSS 117, ça y est, sont arrivées sur vos grands écrans de l'été. Alerte rouge au cœur de l'Afrique noire. C'est un film qui arrive à point nommé pour tenter de remettre, c'est vrai, un peu de baume au cœur d'un secteur victime de longue date, hein, de la crise sanitaire. Et l'obligation en plus de présenter depuis peu un pass sanitaire pour accéder au siège ô combien confortable de nos salles préférées. Lucille Bess est allée à votre rencontre à la sortie du cinéma parisien. Écoutez.
Ça faisait longtemps qu'on attendait le film, très heureux de revoir le personnage. Ça fait une bonne quinzaine d'années qu'il nous accompagne et c'est un personnage qui est très comique et voilà, on passe des bons moments à regarder les films.
Une réplique culte peut-être ?
J'aime me battre.
J'aime me battre.
Beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, je trouve que ça fait du bien. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques autour du film, mais encore une fois, il faut accepter le second degré. Ça fait partie aussi de l'expression artistique en France.
Dans l'ensemble, c'était vraiment très agréable à regarder. Son côté loufoque et puis le fait qu'il s'est un peu décalé par rapport au James Bond, dont je suis fan.
Chaque espèce la plus dangereuse soit-elle, à son prédateur, je suis leur prédateur.
Mais vous n'avez plus de balles.
Oui, mais eux ne le savent pas.
OSS 117, à vous de juger. 18h21, le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux universitaires de Marseille, va être notre invité. On va parler du plan blanc déclenché en Corse, à Marseille et visiblement en Occitanie dans quelques minutes.
RTL Soir. RTL Soir. Christophe Paco.
Notre invité ce soir, le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux universitaires de Marseille. Bonsoir à vous, professeur.
Bonsoir.
Après la Corse hier, aujourd'hui la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on parle également d'Occitanie, on déclenche le plan blanc. On le rappelle, le plan blanc, c'est de permettre aux établissements de soins de pouvoir faire face à la hausse sensible du nombre d'hospitalisations. C'est vrai qu'à Marseille, ça a augmenté de plus de 55%. C'était inévitable pour vous, Jean-Luc Jouve, cette ouverture du plan blanc ?
C'était inévitable dès lors qu'on a constaté une augmentation de, comme vous l'avez dit, de 50% des hospitalisations en une semaine. Donc ça fait une augmentation qui est majeure et des indices qui laissent à prévoir que ça va continuer.
On est en pleine période de vacances, c'est sûr que ce sont des zones touchées, la Corse, la région PACA et bientôt l'Occitanie. C'est plus que normal. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'entraide dans notre région ?
Ben, on n'en est pas encore là. Quand on est carrément à la saturation, c'est ce qu'on fait. On fait des transferts interrégionaux. Là, on n'en est pas du tout là. Là, on en est à la gestion d'un moment particulier où le Covid monte et on a 20% de nos effectifs qui sont en congé et congé bien mérité qui plus est. Donc, c'est un peu difficile.
Aujourd'hui, tout le monde accepte de revenir au travail ?
Il n'est pas question que les gens en congé reviennent au travail, en tout cas pour ce qui est de la PHM, les hôpitaux de Marseille. On a pris l'option de ne pas faire venir de congé le personnel actuellement parce que...
C'est pas une obligation, pardonnez-moi professeur, dans le plan blanc c'est presque une obligation de revenir au travail, je comprends
non,
pas.
Non, c'est une autorisation.
Autorisation, d'accord.
Le plan blanc vous donne des moyens d'action. Ces moyens d'action, c'est la déprogrammation, c'est de rappeler les gens en congé, c'est augmenter les heures supplémentaires, c'est de grandes libertés pour l'intérim. Donc tous ces moyens, chacun les gère comme il le peut. Nous, on a pris l'option que nos agents, les médecins, les paramédicaux, les personnels non médicaux qui sont en congé restent en congé pour qu'en septembre, ils puissent être opérationnels. En échange de quoi on va augmenter notre capacitaire en diminuant, en déprogrammant ce qui n'est pas urgent en termes de chirurgie, en positionnant les réanimateurs et les infirmiers anesthésistes dans les soins intensifs pour faire fonctionner les réanimations.
Un plan blanc qui arrive au moment où une grève était déclenchée dans cette région sud de la France avec des gens qui, encore une fois, du personnel hospitalier qui ne veut pas se faire vacciner.
Alors, moi je respecte tout à fait les opinions des gens, même s'ils n'ont aucun fondement scientifique, et je crois que c'est clair, hein. Il y a une réponse à ça, c'est que actuellement, il n'y a aucun patient non vacciné dans nos... il n'y a que des patients non vaccinés dans nos réanimations. Tous les vaccinés ne meurent pas, c'est le cas. Mm-hmm. Donc, et en réa, il n'y a que des gens qui n'ont pas été vaccinés.
Que des gens qui n'ont
donc,
pas été vaccinés.
Je crois que c'est la meilleure...
Mm-hmm. Aujourd'hui.
C'est la meilleure réponse que l'on peut faire. Ensuite, que de manière un peu irrationnelle, on ne souhaite pas se faire vacciner, c'est quelque chose que l'on peut entendre. Pour autant, on ne refusera jamais à une personne non vaccinée l'accès aux soins dans un hôpital public. Et ça, quelle qu'en soit la décision du Conseil constitutionnel. Donc je crois qu'il faut bien faire attention aux effets d'annonce. Et puis les soignants, il faut que l'on parle avec eux, il faut qu'on discute avec eux, qu'on arrive à convaincre, à expliquer. C'est ça le travail d'un médecin, c'est avant tout d'être pédagogue.
En peu de mots, Jean-Luc Jouve, est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant ce qu'on fait sur Marseille, sur la région PACA, sur la Corse, l'Occitanie?
Je pense que c'est suffisant. Ce qui n'est pas suffisant, c'est notre charge vaccinale. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille sans arrêt en termes, je vous ai dit, de pédagogie et de persuasion.
Merci d'avoir été notre invité ce soir, Jean-Luc Jouve, professeur et président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux universitaires de Marseille. Dans un instant, votre plateau télé, le rappel des titres, et puis on refera les jeux avec Marie Portolano et Christian Olivia tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Christophe Paco.
À 2 minutes de 18h30, l'heure de jeter un œil sur notre plateau télé du soir. Bonsoir à vous, Laurent Marsic.
Bonsoir.
Ce soir, un peu de rêve à la télé.
Oui, avec la suite et fin du volet consacré à ces Français qui rêvent d'une maison à la campagne à petit prix, qui n'ont pas forcément d'énormes moyens. C'est ce qu'ont fait plusieurs couples, familles, potes, frères et sœurs, dont nous découvrons les folles aventures ce soir dans Zone Interdite sur M6. Il y a par exemple Amandine et Florian, 26-27 ans, qui se sont lancés dans un pari fou, retaper du sol au plafond un hôtel du 19e siècle pour en faire une maison de famille. 200 mètres carrés, 12 chambres pour 80 000 euros, c'est pas très cher. Mais surtout, ils se sont dit, et c'est là où ils sont vraiment fous, aucun des deux n'est bricoleur. Alors parfois, ils sèchent pour décaper une porte.
Non, non, il m'a dit qu'il fallait pas penser, c'est de la peinture au plomb en plus. C'est toxique. Faut
que ça fasse de la poussière.
Ouais, donc du coup, il m'a dit avec le décapeur, ça part seul, il l'a déjà fait, il m'a raconté. Par contre, il m'a pas dit comment fallait faire.
Parce que ça chauffe, ça faudrait pas que tu fasses.
Ouais, il m'a dit que ça chauffait à 600 degrés. Ouais.
Magie des temps modernes, il y a heureusement Internet et ses tutos brico.
Nous allons voir ensemble comment décaper la peinture acrylique. Déplacer le
décapant. Avec la spatule, après
t'appuies. La vie, ça marche. Plus classique, voici Florent et Kevin. Oui. Ils ont acheté pour 50 000 euros une superbe maison dans le Morvan, en Bourgogne, avec 2000 mètres carrés de terrain. Pareil, ils retapent tout seul. Alors, pour faire un trou à la cycloche, heureusement, il y a papa, c'est le joker. Appelle à un ami.
On a fait le trou, tu sais, avec le cycloche.
Ouais. Tu m'as cassé ma cycloche.
Mais non, non, c'est que la cycloche, elle est trop. Elle est pas assez profonde pour tout percer.
Avec les ciseaux à bois, tu vois, t'as essayé d'ôter de dessus de cette espèce de grosse rondelle que ça te fera.
Ok, bon, on fait un petit peu partout.
Bah oui, c'est tout bête.
Et tout bête,
tous ont un point commun. Voilà, ils ont tous un point commun, ils croient en leur rêve et ça va marcher. Et résultat, comme dit ce jeune homme qui, avec 10 de ses potes, s'est offert une immense maison sur les bords du Lot pour un investissement de 1000 euros chacun.
On est heureux de venir là, on est peinard. L'avantage d'avoir un endroit où se réfugier, et encore plus pendant cette période. Est-ce que tu vois quelqu'un de stressé aujourd'hui? Regarde-moi ça. Alors ça, est-ce que tu vois un Parisien là? Il y en a pas un. Les gens, ils sont à deux à l'heure, ils sont tranquilles, peinards. Et c'est ça le régal. C'est ça le régal.
Ah, c'est vrai que dans le sud-ouest, on marche à deux à l'heure. 21h05, M6, zone interdite, présentée par notre camarade Ophélie Meunier. Ça fait vraiment du bien.
Allez, un hommage ce soir, on l'oublie pas sur France 5.
Oui, France 5 a programmé une semaine, France Télévisions a programmé toute une semaine d'hommage au père et cofondateur du groupe Cassav, disparu samedi dernier, Jacob Desvarieux, créateur du Zouk dans les années 80. La chaîne rediffuse ce soir un très beau documentaire qui raconte la légende de ce groupe avec de nombreux témoignages, comme ces deux-là. Tiens, le premier qui parle, c'est Miles Davis, l'autre, c'est Marcus Miller.
J'ai donné à Marcus l'album d'un groupe qui s'appelle Kassou. Vous en avez déjà entendu parler? Ils font un rythme qui s'appelle Zouk. Ça sonne bien.
À l'époque, je travaillais avec Miles Davis. Et un jour, il m'appelle et me dit « Mec, jette un coup d'œil à ce groupe qui s'appelle Kassol. » J'ai lui dit « Kassol, comment t'écris ça ?» Il me dit « J'en sais rien. Juste mets la main dessus et écoute, parce que c'est mortel. » J'avais jamais entendu parler. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé Kassav. Et c'était incroyable.
France 5 ce soir, 20h50. Enfin pour les enfants, allez faire un tour sur Arte qui diffuse un petit bijou d'animation japonaise. Mirai, ma petite sœur, du maître de l'animation Mamoru Osada, qui on doit aussi les enfants loups. C'est un conte magnifique sur l'enfance et la transmission. Arte, 20h55.
Merci mille fois Laurent Marsic. À demain.
Prie. À demain.
Il est 18h30.
RTL Soir. Christophe Paco.
Les principautés de l'actualité après la Corse hier. Le plan blanc a été déclenché ce midi sur l'ensemble de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur. Et ce soir, à l'instant, on l'apprend donc sur l'ensemble de l'Occitanie. Dans la douleur et la colère, les Libanais se sont réunis tout à l'heure aux abords du port de Beyrouth pour marquer le premier anniversaire de l'explosion dévastatrice et meurtrière du 4 août l'an dernier et dénoncer également l'impunité de la classe politique dans cette tragédie. Les larmes et la rage de Kevin Mayer au premier jour de ses 10 épreuves au décathlon olympique diminué par une blessure au dos. Le recordman du monde rêve toujours pourtant de médailles. Puis une médaille de bronze, la 25e en 4,70 pour la voile tricolore. Et puis coup de chapeau à nos basketteuses comme à nos handballeuses françaises qualifiées pour les demi-finales. Plateau télé, c'était magnifique. Laurent Marsic, je vous remercie, vous pouvez sortir du studio. Et on refait les jeux avec Marie Portolano, Christian Olivier dans une minute. Le temps de la météo avec vous, Claire Delorme. Et ce qui est bien, ce qui est très très bien, c'est que ça s'améliore enfin dans le sud.
Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les belles éclaircies vont pouvoir en tout cas se développer toute la journée du Pays Basque en passant par la région PACA, les plaines du Languedoc et même les Pyrénées. Mais attention au ventre, Corse et continent, ça va souffler très fort à plus de 110 km/h. Donc on évite s'il vous plaît les sorties en mer et puis la baignade. Partout ailleurs, eh bien ce sera les nuages qui vont encore dominer une bonne partie du pays, avec en prime une nouvelle perturbation qui va circuler en matinée de la Bretagne et puis progressivement dans l'après-midi, elle va gagner les Pays de la Loire, la région centre en remontant par les Hauts-de-France. Ça sera des pluies de faible activité. Par contre, le vent sera également de la partie jusqu'à 50 km/h. Et puis tout à l'est, les averses vont aussi prendre d'assaut, on va dire, les régions allant de l'Alsace en direction de la région Rhône-Alpes, avec encore des températures assez fraîches pour la saison. Ouais. On est plutôt digne d'une fin septembre plutôt que d'une mois d'août.
Ça suffit.
Désolé, mais bon, en tout cas, en matinée, on aura entre 11 et 15 degrés. Et puis donc, dans l'après-midi, hein, c'est pas pour mettre en colère la France entière, mais il fera 20 degrés à Cherbourg. Mmh.
Mmh.
23 Combien degrés à Lille. Oui, 23 degrés à Lille, ah, demain. Ouais. 24 degrés à Paris, ça va un petit peu. 22 degrés à Nancy, 22 degrés à Clermont-Ferrand, 25 degrés à Toulouse, hein, pas plus. Et puis allez, pour être généreuse, on va dire 29 degrés à Bastia.
C'est bien, c'est une beauté.
Je fais ce que je peux.
Très, très bien. Marie Portolano acquiesce. Elle a froid comme nous. Bonsoir Marie Portolano.
Bonsoir.
On refait le jeu. Bonsoir. Christian Olivier qui est en place et qui a joué une médaille et puis un déçu mais qu'on adore. Formidable porte-drapeau.
Exactement, ce sont nos deux invités du jour. Ils sont entrés dans le studio pour vous faire la surprise. Donc c'est Samir Aïd Saïd et Jean-Ki Campois qui sont avec nous aujourd'hui.
C'est le 25 mètres rapide, c'est rapide. Hein. C'est le tir. Hein. C'est impressionnant la vitesse.
Ne faites pas l'émission avant l'émission.
C'est vrai, vous allez refaire les jeux, non?
Exactement.
D'accord, jusqu'à 19h sur RTL.